Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Yasmine Boulan.
Bonjour, bonsoir. Il est l'écrivain du post-exotisme, ou plutôt l'un des écrivains du post-exotisme, puisqu'ils sont quatre à apporter leur pierre à cet édifice romanesque singulier qui doit comporter 49 romans. Enfin, quatre écrivains en un, si l'on peut dire, puisque les mots de Lutz Bassmann, ceux de Manuela Dreger, ceux d'Eli Kronauer et ceux de notre invité Antoine Volodine sortent sinon de la même plume, du moins de la même matrice, qui construit pierre après pierre une œuvre à quatre voix dans laquelle le réalisme magique croise la fiction du politique et la poésie post-apocalyptique. Entre les morts et les vivants, entre infirmiers et malades, entre policiers et dissidents, Antoine Volodine nous entraîne cette fois dans une farce sombre et pluvieuse, dans laquelle l'absurde et la folie se conjuguent pour faire un sort au totalitarisme meurtrier et aux illusions révolutionnaires. Les filles de Monroe, le dernier roman d'Antoine Volodine, est paru aux éditions du Seuil, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Antoine Volodine.
Bonjour.
Avant de regarder devant nous, on va regarder un petit peu en arrière. Quelques semaines seulement après le début de la pandémie de Covid-19, je suis sûr que vous vous en souvenez, tout le monde, les journalistes, les écrivains, mais aussi les gens de la rue, les gens qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux, pensaient au monde d'après. Le monde d'après l'épidémie, le monde d'après la pandémie, vous aussi ?
Non, pas du tout, parce que finalement la pandémie a été un épisode qui continue. D'ailleurs, c'est plutôt le monde du présent, c'est le monde de pendant et pas le monde d'après. Et les rêveries sur ce qui va suivre, finalement, sont des rêveries assez anodines. Alors que dans ce que nous écrivons, je vais dire nous puisque je représente quatre voix ici,
oui.
Dans ce que nous écrivons, il y a une projection vers un après et vers un ailleurs qui sont bien éloignés des petits problèmes de pandémie, disons,
oui.
Actuels dans le monde.
Un après, Antoine Volodine, qui, pour Volodine, donc pour l'une de ces quatre voix-là, est forcément cauchemardesque.
Oui, certainement. Nous ne décrivons pas vraiment ce qui s'est passé avant. Et nous plaçons tous nos romans, ou beaucoup de nos romans, pas tous, mais beaucoup, dans un après, effectivement, et qui est marqué par quelque chose qui peut être appelé cauchemar, oui, qui est l'extinction progressive de l'humanité.
Il y a eu une sorte de grande catastrophe. Alors, on ne sait jamais vraiment laquelle, en fait.
On ne sait pas.
Et c'est peut-être le fait de ne pas savoir, d'ailleurs, qui est un des intérêts premiers de l'histoire, qu'on a besoin de cette incertitude pour s'y plonger ?
Eh bien, ne pas savoir, ça permet de ne pas expliquer, de ne pas développer quelque chose qui ne nous intéresse pas, finalement, justement la description de la catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est de placer des personnages, souvent isolés, comme dans ce roman, comme dans de nombreux romans que nous avons signés, des personnages qui sont presque seuls, qui se débattent dans un univers qui est dur, qui est noir, qui est cauchemardesque, et qui est aussi l'univers d'après la mort. Parce que là, on parle de « après », comme si on parlait d'un univers encore réel, alors que beaucoup de nos romans placent les personnages dans un après qui est après le décès.
Alors, dès les premières lignes de ce roman, donc Les filles de Monroe au seuil, le lecteur est plongé en tout cas dans une atmosphère très sombre. Hein. Il y a des rails, il y a des mares d'eau, mais des mares d'eau noires. Il y a du brouillard, il y a de la pluie qui arrive très vite. La pluie est très très présente hein, sur l'ensemble de votre récit. Et d'un bout à l'autre hein, du roman, on est comme ça, entre la grisaille du jour et la nuit noire, avec souvent une odeur de mort. Justement, la vie semble un lointain souvenir. Est-ce que vous diriez, Antoine Volodine, que le monde des filles de Monroe est un monde post-apocalyptique? Vous avez du mal avec ce mot apocalypse?
Certainement, j'ai un peu de mal parce que le mot post-apocalyptique est apparu dans l'histoire de ma production, alors que déjà j'avais écrit pas mal de romans que je n'arrivais pas à situer, que je n'arrivais pas à définir. C'est pour ça aussi que j'ai inventé le nom post-exotique pour pouvoir me débarrasser des étiquettes qui renvoient à une littérature dans laquelle je me trouve, comme dans toutes les littératures existantes, assez marginale. Et la littérature post-apocalyptique, qui est un genre maintenant bien établi, je pense que le post-exotisme se trouve à sa marge.
Alors on se rend compte très vite qu'on est dans une sorte de grande cité psychiatrique délabrée qui ressemble fort à un camp. Ce sont des types d'endroits que l'on retrouve très souvent aussi dans vos romans, Antoine Volodine, dans vos romans précédents. Qu'est-ce qui vous fascine dans les endroits qui font froid dans le dos ?
Rien ne me fascine véritablement. Je tombe là-dedans comme Obélix dans sa marmite magique, de potion magique. Ça me paraît très simple de placer des personnages, de faire naître des personnages dans un univers qui leur est hostile, qui est noir, et qui permet à ces personnages de s'exprimer pleinement, de gagner leur personnalité devant le lecteur ou la lectrice. Et si vous dites que ça fait froid dans le dos, à eux, ces personnages, hommes et femmes, ça ne fait plus froid parce que c'est leur monde.
Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a sinon un mimétisme, ou du moins une correspondance entre le monde dans lequel ils s'ébrouent, la nature, le monde naturel ou le monde artificiel qui les entoure, et leur propre caractère, leur propre personnalité?
Ils vivent. Vous parlez de la nature. Alors c'est intéressant parce que dans ce livre, la nature apparaît très très peu dans Les Filles de Monroe, alors que dans d'autres livres, elle est extrêmement présente et elle n'est pas repoussante. Elle est inquiétante parce que, par exemple, comme dans Terminus Radieux, elle est irradiée et
Terminus
mortelle.
Radieux, qui vous avez lu entre autres le prix Médicis, hein, je précise.
Oui, c'est une nature très belle, très dans laquelle on se perd. Et qui est mortel d'une certaine manière, alors que ici on se trouve dans un cadre totalement urbain, terriblement urbain, avec des rues qui sont plantées d'arbres plus ou moins mutants dont la description ne vient pas beaucoup parce que c'est pas la peine. Enfin bon, des platanes, mais des platanes mutants, des figuiers, mais des figuiers mutants. Et c'est le seul contact que les personnages ont avec la nature, c'est avec justement avec ces arbres. Hein, un des personnages principaux, breton, se place face aux arbres, embrasse les arbres et parle aux arbres.
Alors Breton, c'est effectivement l'un des personnages, c'est pas le premier personnage qu'on découvre, mais c'est un des personnages majeurs effectivement du livre. Il s'est installé dans le pavillon des cosmonautes, il attend et il observe avec son acolyte qui devient de temps en temps le narrateur et qui parle à la première personne, donc en disant « je », sauf que parfois... Et même plus que parfois, d'ailleurs, Antoine Volodine, on se dit, je et Breton sont deux. Et au paragraphe suivant, on se dit, ben non, en fait, c'est une seule et même personne. Et comme en plus, on est dans un asile, donc dans un centre psychiatrique, on se dit qu'on a affaire à un schizophrène, capable d'ailleurs de jouer aux échecs tout seul, et donc de jouer alternativement ou en même temps, on ne sait pas trop d'ailleurs, avec les blancs ou avec les noirs, capable aussi de dialoguer avec son autre moi, en quelque sorte. Dans votre tête à vous, Antoine Volodine, qui est donc l'une des quatre voies de ce post-exotisme. Est-ce que vous êtes vous-même dual ou vous avez vous-même un cerveau divisé en quatre? Vous êtes un schizophrène de la littérature, Antoine Volodine?
Non, je pense pas. Je pense que je domine ces choses et que la schizophrénie, justement, c'est une maladie où on ne domine pas cette cassure entre soi et les autres, entre son double et là, par exemple, on a un personnage qui est vraiment schizophrène et qui vit sa sa vie intérieure comme un dialogue avec un autre personnage qui est breton.
Qui a parfois du mal à supporter, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il y a des contradictions entre les deux moitiés de ce personnage, mais ce qui est amusant pour moi au moment de l'écriture, ça a été évidemment de passer du je au il et de laisser planer une certaine ambiguïté sur qui parle, qui raconte, mais ce qui m'a encore plus amusé, c'était de montrer systématiquement que les personnages extérieurs à Breton s'adressent à Breton, et ils ne s'adressent pas comme s'il était double.
Mmh,
ils s'adressent à Breton, et Breton, à ce moment-là, répond à la question. Et en même temps, a le regard de celui qui regarde celui qui répond. Voilà. Alors mais c'est très net dans le livre. Ce qu'il y a, c'est que cette sorte d'ambiguïté, de duplicité permanente, continue d'un bout à l'autre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière réplique, oui. Jusqu'à la dernière phrase. Les décisions que prend Breton sont discutées,
voilà.
Finalement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a rien à faire, par exemple. Enfin, voilà, il n'y a rien à faire, dit Breton. C'est une manière de dialogue intérieur qui à mon avis, n'est pas très déconcertant pour le lecteur ou la lectrice,
mais j'ai
l'impression quand même que beaucoup de gens ont réagi en se posant des questions,
oui.
Sur mais alors,
oui,
il y en a deux.
Bah voilà, effectivement. Alors en plus, Breton est donc, on le disait, il surveille, il est guetteur, il a des appareils assez sophistiqués, et il guette ces fameuses filles de Monroe, hein, qui donnent donc leur nom à votre livre. Et la première de ces filles de Monroe, eh bien, elle déboule dans le récit, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, dès les premières lignes du roman. Voici comment, nous sommes à la page 9.
La fille resta suspendue un instant à la corniche qui courait le long du troisième étage, puis elle tomba et disparut dans l'obscurité luisante de la rue Delvaux. Elle s'appelait Rauch, Rebecca Rauch. 30 ans plus tôt, je l'avais follement aimée, et ensuite, elle était morte. Après la brève traînée noire de cette chute, il n'y eut aucun changement au cœur de la nuit. L'image sans couleur était très nette, mais il ne s'y passait rien. Il avait plu. Des gouttes froides se rassemblaient sous les fils électriques qui reliaient les maisons, et, avec régularité, elles se détachaient pour s'écraser beaucoup plus bas, sur les pavés ou sur les flaques, après un bref scintillement et, sans doute, une note cristalline. C'était une image fixe, mais rien n'empêchait d'y superposer une discrète bande sonore, des tintements espacés d'après la pluie. En dehors de cela, aucun bruit ne donnait vie au décor. 2 lampadaires sur 3 étaient éteints, pas une seule lumière ne brillait derrière les fenêtres. Au milieu de la chaussée, les rails du tramway paraissaient en piteux état, émergés ou noyés selon les creux et les bosses du sol. La fille était toujours là, en chien de fusil sur le pavé. Au bout de 5 minutes, elle remua. Elle avait sur elle tout un attirail militaire, un sac ventral, une carabine à canon scié, un poste de radio, et elle avait mis fin à son immobilité. Si quelqu'un s'était trouvé à proximité, il aurait pensé qu'elle ressemblait à un très gros et très vilain scarabée en train de barboter dans la graisse boueuse de la nuit. Mais personne ne la regardait, et quand elle se fut mise à genoux pour commencer à ramper, elle frissonna à la fois de douleur, de froid et de solitude. « Putain, marmonna-t-elle, que j'aurais bien pu me casser une patte !» Comme bon nombre d'entre nous, elle appartenait à une espèce intelligente. Du moins une espèce suffisamment intelligente pour réfléchir à voix haute. Sur notre activité intellectuelle, dans les moments où nous ne bougonnons pas, où rien ne sort d'entre nos lèvres, vétérinaires et thanatologues se disputent. Ces querelles sont d'un autre âge. En réalité, ni le langage ni la pensée ne sont nécessaires pour vivre ou pour survivre. La fille ne pensait peut-être pas en permanence, mais elle agissait.
Antoine Volodine, avant d'en dire un petit peu plus sur les filles de Monroe en général et sur le personnage de Rebecca Rauch, je voudrais qu'on s'arrête sur les 2 dernières phrases de ce passage. « Ni le langage ni la pensée ne sont nécessaires pour vivre ou pour survivre. La fille ne pensait peut-être pas en permanence, mais elle agissait. Est-ce que vous pensez que faire est en train de devenir plus important que penser?
C'est le cas, cette analyse, c'est, elle est partagée par le narrateur et moi peut-être aussi d'une certaine manière. Mais on est dans un contexte complètement décalé par rapport à la réalité, où justement l'ambiguïté ne naît pas uniquement parce que Breton est schizophrène et qu'il a un double, mais il y a une sorte d'ambiguïté organique qui se concrétise dans de nombreux de nos romans, mais qui là est très clair, c'est-à-dire que les personnages qui apparaissent dans certaines pages, et les filles de Monroe en particulier, viennent de l'au-delà. Elles ne sont ni mortes ni vivantes, elles viennent de la mort, et leur mission est d'agir et pas de réfléchir à ce qu'elles font. Elles ont été programmées dans des stages pendant des années dans le monde noir, dans le monde de l'espace noir. Elles ont été programmées pour agir dans la cité psychiatrique où se trouve Breton. Et l'idée, et on le voit tout au long des apparitions de ces filles, justement, la réflexion n'est pas leur fort. Elles sont capables d'agir vite, d'agir bien. Ce sont des commandos, en fait. Donc là, on n'est pas dans la question plus large que vous sembliez proposer, c'est-à-dire faut-il penser ou faut-il agir? Elles agissent en fonction de leurs instructions.
Voilà, en fonction de leurs instructions, et elles agissent et elles parlent aussi. On a entendu, hein, putain, il y en a plein des putains. Quand Rebecca Roff s'exprime, Antoine Velodine, elles ont, ces filles de Monroe, un langage assez vert. Elles ont une langue à elles.
C'est la langue des morts. C'est la langue des morts envoyés, des mortes envoyées dans le camp. Il y a un petit paragraphe à un moment qui déplore le fait que elles sont très bien formées, elles sont très efficaces, mais malheureusement on n'a pas pu les débarrasser du langage de Chartier qui est la langue des morts. Ça n'est pas la seule caractéristique de la langue des morts, parce que dans le livre, à plusieurs reprises, d'autres morts parlent de façon assez grossière et assez élémentaire. Mais là, c'est le truc qui caractérise le langage particulier des filles de Monroe.
Les morts parlent avec des mots, ils parlent aussi souvent avec leur corps et avec leur odeur. Nous sommes à la page 41, il est question d'un trio de policiers dont le plus important s'appelle Keitel.
Keitel n'avait pas de blouse blanche et souvent il conservait son imperméable de flic pour nous interroger. Je craignais sa brutalité, mais j'étais moins dérangé par ses odeurs que par les odeurs de ses sous-fifres. Un imperméable ou un manteau, selon la météo, en tout cas un vêtement lourd et couvrant, mais ce que je veux souligner ici, c'est que s'il pouvait éventuellement sentir l'humidité et le tabac, il n'exhalait pas, comme ceux de Bronx et Stromheim, des souvenirs de souterrains, de flaques d'huile noire, de boucheries à l'abandon, de gargotes ou des rongeurs hirsutes finis sous forme de vilaines brochettes. Keitel émettait des odeurs de commandants. Bronx et Stromheim brassaient autour d'eux des puanteurs d'arrière-monde.
Là, tout de suite, Antoine Velodine.
Ce sont des vivants,
mais
Keitel n'est pas encore mort.
Voilà, mais on est déjà, pas à ce moment-là, mais on est déjà effectivement dans une dimension de verticalité, en quelque sorte. Il y a le chef qui exhale une certaine odeur, et puis il y a les sous-fifs qui en exhalent une autre. Comment est-ce que vous avez construit ce personnage de Keitel, Antoine Velodine? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sans trop en dévoiler, bien sûr?
Au départ, c'était l'image d'un flic comme dans le roman noir américain, avec un imperméable, solitaire, bougon, n'obéissant pas aux ordres qu'on lui donne. Et voilà, ce personnage va être donc... D'abord, il faut dire que on parle de police, de sbire, de chef, de commandant, mais dans la ville psychiatrique, dans cette vaste cité psychiatrique, il y a presque plus personne. La police existe, certes sous la forme de Kettel et des interrogateurs et de Dame Patmos, dont peut-être on parlera tout à l'heure. Mais le parti et la police qui sont confondus sont en nombre minuscule. Enfin, ouais. ils ont presque disparu.
Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont besoin de maintenir une forme de police et d'ordre.
Oui, alors ça c'est le cauchemar. C'est le cauchemar, c'est-à-dire que tant qu'il y aura une bureaucratie policière, elle sera à l'œuvre.
Elle sera là, quel que soit ce qui s'est passé,
même s'il n'y en a plus que 4 ou 5 individus.
Alors, voilà. Un petit mot sur Dame Patmos quand même, parce que bon, c'est pas un personnage majeur du livre, et pourtant c'est peut-être le personnage le plus inattendu, le plus drôle, et parfois peut-être aussi le plus attachant. Antoine Velodine, c'est une femme qui a un fort appétit sexuel, mais qui ne suscite plus le désir. Oui, c'est terrible.
Oui, c'est terrible pour elle. Oui,
pour elle, enfin, oui.
Pour les lecteurs, je sais pas.
Et pour les lecteurs, c'est peut-être un peu plus drôle.
Oui. Non.
Pourquoi vous aviez besoin de ce personnage-là?
Ben d'abord, c'est l'ancienne épouse de Monroe. Elle a vécu avec Keitel. Et ensuite, elle a laissé tomber Keitel pour se marier avec Monroe.
Donc Monroe qui était l'une des grandes têtes du parti.
Voilà, et qui s'est fait éliminer violemment. Et donc, Dame Patmos, à ce moment-là, a commencé son ascension dans le parti pour arriver finalement au comité exécutif. Qui porte bien son nom parce qu'il s'agit bien d'exécuter le maximum de personnes, mais cette Dame Patmos m'a réjoui au moment où je l'ai fait rentrer sur scène, parce que c'est une personne truculente d'une certaine manière, et puis qui ne correspond pas du tout aux autres personnages que j'ai rencontrés au fil de 40 ans d'écriture. Elle est très très à part. C'est d'une part à cause de sa sensualité fébrile, et d'autre part parce que finalement c'est une vache bureaucratique, hein, une grosse bonne femme du parti qui ne correspond pas aux autres femmes de parti et de pouvoir que j'ai mises ou que nous avons mises en scène au fil des romans, qui sont plutôt desséchées, sévères, dures, alors qu'elle a quand même une onctuosité, elle a des formes, voilà, et elle en joue pour essayer de ressusciter son amour avec Keitel.
Elles étaient tombées toutes seules. faire le chemin. Voilà pour toi. Rien n'a porté à garder, à tenir que ce nom étrange. Sur un banc de soleil, notre nom de famille n'y est pas gravé. Rien, il n'y a pas de maison en Ardèche. C'était un rêve ou un mensonge à ta mère, tu sais. Il n'y a pas de maison secondaire, de maison primaire, pas de voiture, pas de montre, au poignet, rien.
Héritage, Mendelssohn sur RFI dans VMDN avec l'écrivain Antoine Volodine qui publie Les Filles de Monroe aux éditions du Seuil, et la première de ces Filles de Monroe que le lecteur encore une fois découvre dès les premières lignes des Linky Pit s'appelle donc Rebecca Rauch. Elle a des allures d'Amazon ou de ninja. Elle fait partie de ce commando armé des guerrières avec tout un attirail militaire venu d'outre-tombe avec une mission bien précise. Et Breton l'a aimé il y a très longtemps. Nous sommes cette fois à la page 196 du roman.
Rebecca Rauch. La photographie n'existe plus, évidemment. Je l'ai pieusement conservée en tête et sous mon crâne, derrière mes yeux. Elle n'a pas jauni, elle ne s'est pas perdue comme les documents se perdent pendant les déménagements, les transferts nocturnes et brutaux d'un pavillon à l'autre. Elle n'a pas été déchirée par des bandits ou des gardiens, elle n'a pas été détruite au cours d'une crise de désespoir suicidaire, non. Elle est restée là, intacte, inoubliable, préservée de la folie des autres, protégée par la mienne. Tu es debout sur une couche de neige très mince. Je crois, et même j'en suis sûr, que c'était la dernière neige. Nous n'étions déjà plus habitués aux coups de froid. Jamais depuis deux ou trois générations, la température n'était descendue aussi bas. Cette blancheur miraculeuse avait tout recouvert dans le camp, et elle nous excitait énormément. Nous nous étions tous habillés trop chaudement, et dès la fin de la nuit, nous étions sortis. Nous nous étions égayés, et tu étais allé avec moi jusqu'à la limite des arbres qui entourent le camp. Nous ne les voyons pas, mais au-delà se dressaient les barrières barbelées qui nous séparent des restes, de ce monde de détritus impénétrables qui s'étend sur des milliers de kilomètres, qui s'étend sans fin, et qui témoigne du fait qu'en dehors de notre oasis psychiatrique, autrefois, il y a eu des vivants, une civilisation avec des humains, des insanes en bonne santé et des animaux. Tu es debout sur la neige qui n'a été piétinée ni par nous ni par d'autres. Tu es engoncé dans deux manteaux boutonnés l'un sur l'autre. On devine un peu de buée autour de tes lèvres, comme si tu fumais. Pourtant, le matin est clair, le soleil s'est levé, et déjà l'air se réchauffe. Et il n'est pas besoin d'être un expert en météorologie pour comprendre que cette pellicule extraordinaire qui enveloppe le paysage va très bientôt fondre à toute vitesse. Nous sommes conscients de cette minute, et nous nous regardons. Je te regarde, tu souris, tu me souris. Ton visage est épanoui. Parfois, tu prétendais avoir des ancêtres iburs ou bourriates. Ton visage le reflète, et il est très jeune, très dur et sublime, et tu me souris. De nouveau, j'admire la forme parfaite de tes lèvres, de tes sourcils, de tes pommettes. Encore une fois, je plonge au profond de tes yeux de miel brun pailleté d'or. Je te dis que j'aimerais éperdument m'évanouir en toi. Je cherche mes mots, follement, insensément, et tu me réponds en élargissant ton sourire. À ce moment, il nous semble à tous deux que nous avons l'éternité devant nous. Aucun pressentiment ne nous assombrit. Nous n'imaginons pas que, le lendemain, tu seras tué au cours d'une brève explosion de violence armée entre fractions du parti. Une des dernières.
Les souvenirs de Breton, votre personnage, sans doute Antoine Volodine, un des plus beaux passages du livre. Pour moi, en tout cas, un passage qui tranche. D'ailleurs, avec le reste, on a presque l'impression d'une parenthèse dans votre récit.
Oui, là on retrouve ce qui caractérise beaucoup de nos fictions, en fait, qui est la recherche de l'être aimé par-delà la mort, par-delà les obstacles, par-delà le temps. Et c'est vrai que dans beaucoup de livres, par exemple, je pense à Songe de Mevlido, le personnage passe sa vie entière à essayer de retrouver cet amour qui appartient à une vie antérieure. Là, on a un peu ces retrouvailles dans le souvenir avec une fille merveilleuse. Je l'avais follement aimée. C'est à la deuxième page du livre. Et c'est un élément qui est au fondement, en fait, cette recherche amoureuse de toute la mécanique fictionnelle du post-exotisme. Très souvent, les personnages sont hantés par l'idée de retrouver l'être aimé. Alors, quand c'est une femme, c'est évidemment un être masculin, et vice-versa. Donc, on est là dans un classique du post-exotisme. Mmh, ouais. Alors, effectivement, c'est une lueur. C'est une lueur magique, amoureuse, à l'intérieur d'un monde noir.
Fugace.
Deux pages, certes, mais qui compte énormément dans la vie de Breton. Donc, alors, il y a dans le livre, justement, par rapport à cette noirceur permanente et à la pluie, la nuit, il y a des passages comme celui-ci. Alors ça, c'est un passage de une sorte de lumière amoureuse. Et il y a des passages autres qui sont des passages de farcesques. Vous avez parlé de farce au début. Ça m'a plu parce que effectivement, dans ce livre, il y a des aspects de notre humour. Il y a beaucoup d'humour dans nos livres, mais il y a un aspect un peu nouveau qui est le burlesque carrément, qui est illustré dans toute une partie, la partie centrale, quatrième partie du livre, et qui est également illustré dans la toute dernière
voilà.
Partie.
Alors justement, la liste. Voilà, il faut dire un mot de l'annexe, hein, effectivement, qui clôt le livre et qui recense, je cite, les 343 fractions du parti du temps de sa gloire. Alors la liste, elle fait 12 pages, hein. On y trouve, alors on va pas tous les citer, les léninistes du cinquième jour, la tolérance polpotiste, la fraction guillotine ou la vengeance prolétarienne, mais aussi les Rita Manchukuo, le concerto branle-bourgeois, la tendance perspective Baabar, la tendance perspective Baba Yaga, ou encore les barrages contre les pacifiques, ça va peut-être rappeler quelques souvenirs à certains, mais la validation des acquis, les droits à l'inventaire, les disciples de Bogdanov, bref, vous êtes quand même beaucoup amusé, j'imagine, Antoine Volodine.
Ah, c'était un moment de gloire pour moi. Oui, c'est un moment d'écriture comme j'en ai placé, comme nous en avons placé dans plusieurs livres. Par exemple, Lutz Bassmann termine un livre très noir qui est Danse avec Nathan Goldschem par 343 également. Chef d'inculpation complètement ubuesque et farcesque. Et là, évidemment, je me suis éclaté c'est une évidence. J'ai choisi 343 parce que
oui, c'est pas un chiffre anodin, 343.
C'est un chiffre magique pour nous, c'est 7 x 7 x 7. 7 étant un élément chiffré que nous utilisons beaucoup. 49 chapitres se trouvent dans de nombreux romans. Beaucoup de formes inventées dans le post-exotisme sont organisées autour de 7 séquences, par exemple.
C'est un peu le pentagramme de la franc-maçonnerie adapté au post-exotisme ?
Non, je dirais plutôt... Non, pas du tout. Je dirais plutôt que c'est le nombre d'or de notre création et que il renvoie non pas à la franc-maçonnerie mais au bardo teudol et au bouddhisme tibétain et donc aux 49 jours que les décédés parcours en marchant entre leur décès et leur renaissance.
Oui, d'ailleurs, ça, vous faites pas... le lien, d'ailleurs, dans ce titre, entre bouddhisme et bolchevisme. C'est
oui,
une évidence,
alors, voilà,
pour vous.
C'est, ben, il y a le vaudou aussi. C'est amusant. C'est oui. amusant. Très peu le vaudou, même s'il y a des moments un peu chamaniques dans ce livre, mais c'est un jeu parce que, en fait, c'est un clin d'œil permanent au lecteur et à la lectrice que nous faisons. Nous écrivons toujours en pensant au lecteur et à la lectrice et à ceux qui connaissent déjà le post-exotisme, qui connaissent les trucs, les astuces et les chants humoristiques. Voilà. Et donc, le bouddhisme tantrique est très présent dans nos livres, ainsi que le marxisme-léninisme. Et ce mélange dans les fractions du parti était plutôt croquignolet, quoi.
La dernière fraction hein, de cette liste s'appelle « On va en finir avec ça ». Bon, c'est un peu ce qui vous anime, Antoine Velodine, en finir avec les idéologies, quelles qu'elles soient, politiques, religieuses, philosophiques, avec l'égalitarisme aussi?
Non, on va en finir avec ça, c'est-à-dire avec ce bavardage, avec cette liste, mais pas avec la relation, justement, qui est assez intime. Chez tous nos écrivains, toutes les voix que nous mettons en scène, qui est une relation intime avec, d'une part, le bouddhisme tantrique et d'autre part, le marxisme et l'idée égalitariste qui est présente et qui est proclamée à l'arrière de nos livres toujours, puisque les personnages se réfèrent toujours à des surnarrateurs, enfin, qui se trouvent derrière et qui sont très fidèles à la pensée égalitariste.
Mais alors justement, l'égalitarisme, c'est de là d'où vient tout le mal ?
Non, c'est l'égalitarisme dévoyé qui est toujours mis en scène dans nos livres, mais c'est pas du tout, justement, ce n'est pas une dystopie. Nous ne sommes pas en train de raconter l'échec de l'égalitarisme, mais nous sommes en train de déplorer le fait qu'avec un rêve merveilleux d'égalité, on arrive à des atrocités, à un cauchemar.
Quand on vous lit Antoine Velodine, on pense parfois à Beckett, parfois à Kafka aussi. Ce sont des références pour le post-exotisme?
Je suis toujours écrasé par cette référence. Je ne sais pas comment commenter cela. Bien sûr, Beckett et Kafka ont une influence énorme dans notre manière d'écrire en dehors, d'écrire autre chose. De ne pas se soucier de justement les obligations romanesques, les obligations de la mode, de ne pas se soucier du présent, de ce qui est littérairement correct, voilà. Et c'est exactement ce qu'ont fait Beckett et Kafka. Ils ont écrit ce qu'ils avaient à écrire. Et bon, nous autres, à notre petit niveau, nous écrivons ce que nous avons à écrire.
Et Breton, s'il s'appelle Breton, c'est un hasard total ou pas du tout?
Alors ça, c'est assez curieux parce que les noms des personnages, en général, sont assez post-exotiques dans nos livres, où on retrouve assez souvent... par exemple, des noms qui nous obsèdent, comme Bruegel, par exemple. Il y a plusieurs livres où les personnages s'appellent Bruegel. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. Breton s'est imposé comme étant le nom à choisir pour ce personnage et immédiatement il s'est imposé.
Mais c'est important le nom d'un personnage?
Oui, c'est extrêmement important. C'est comme le décor. C'est pour s'identifier au personnage dans le cadre de l'écriture, ce que nous pratiquons de façon plus ou moins chamanique et pas vraiment littérairement correcte. Pour entrer dans le personnage, il faut que le nom corresponde à quelque chose. Et alors Breton, c'est assez curieux parce que finalement Breton fait partie également des auteurs, des poètes qui m'ont énormément marqué dans mon adolescence. Et en même temps, ça n'est pas du tout un hommage. Et si le surréalisme est très présent dans notre idéologie, dans notre manière d'écrire, Breton, en tant que tel, n'a pas de raison. J'aurais pu l'appeler Desnos, mais finalement, voilà. C'était Breton.
Plusieurs de vos textes ont été adaptés au théâtre. Antoine Velody, est-ce que vous êtes tenté par l'écriture dramatique?
Eh bien, d'abord, j'ai écrit une douzaine de pièces radiophoniques qui ont été enregistrées pour France Culture. Et l'écriture dramatique, je pense que je la pratique dans le roman. Voilà. C'est-à-dire que il y a des dialogues, des situations théâtrales qui sont et même cette situation de burlesque de la partie centrale du livre, c'est très théâtral, mais je suis à l'aise pour développer ça dans un cadre de prose romanesque beaucoup plus que dans le théâtre.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Velodine.
Les filles de Monroe. Vous remercie.
Paru, je le rappelle, aux éditions du Seuil. Et bonjour à vous, Marjorie Bertin.
Bonjour, Jean-François.
Suis la flèche. Dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche. Dis-moi si t'aperçois. Les chasseurs d'illusions sur les toits, dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant, dis-moi.
Et la chanson s'appelle La fin du roman. On va donc s'envoler avec vous, Marjorie, puisque l'auteur, compositeur et interprète jurassien Hubert Félix Thiéfen, c'est lui là qu'on entend, esquisse jusque dans les cieux une géographie du vide. Géographie du vide, c'est le titre de son 18e album.
Oui, mais les cieux sont rarement cléments dans la météo d'Hubert Félix Thiéfen. Alors, géographie du vide, c'est du Thiéfen pur jus. De la poésie à chaque vers, du rock, un brin de provocation et de la mélancolie en barre. L'écorché vif de la chanson française est de retour. Après son dernier album, Stratégie de l'inespoir, en 2014.
Alors, cette géographie du vide, c'est en fait une référence à la mondialisation, au virtuel, qui abolirait un petit peu la notion d'espace, c'est ça ?
Non, c'est ce que je pensais, mais pas du tout. En fait, c'est plutôt cosmique.
C'est plus sur le drame de la solitude par rapport à l'immensité. Plus proche de la Terre, apparemment, pour l'instant, c'est très vide. Ça parle de ce vide, vide de sens aussi. Parce que je m'aperçois, surtout avec l'âge, que tout ce qu'on nous a dit, que ce soit à l'école ou par la religion, ça sonne faux, quoi. Enfin, c'est pas la vérité. Donc voilà, c'est vide de sens, mais ça peut être aussi vide d'intelligence ou vide d'amour, de poésie ou vide, vous voyez, chacun peut remplir les blancs.
Alors dans sa météo intérieure à Hubert Félix Thiéfen, on perçoit aussi une certaine difficulté à s'emparer de la chaleur et de la lumière du soleil.
Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Dans les jardins de la vertu, en guerrière, mais moi qui ai rien d'un Mantegna, d'un Bellini, d'un Delacroix, je la peins sous les traits d'un rat.
Comme un Christ et bras en croix, mais c'est une chanson de Johnny Hallyday, ça, je crois, Marjorie.
Mais oui, je sais que vous êtes un admirateur de Johnny Hallyday, et un petit peu quand
un
même.
Un petit peu, oui, oui. En concert, il était impressionnant.
Ah voilà, et cette citation, c'est rigolo parce qu'elle est venue spontanément à Thiéphaine lorsqu'il écrivait cette chanson. Il m'a raconté que c'était son premier 45 tours, le premier disque qu'il s'était acheté quand il était adolescent. Alors je lui ai demandé ce que le chanteur, disparu en 2017, représentait pour lui.
Ah ben moi c'était le grand frère qui me servait de modèle en fait quand j'étais en quatrième, hein, quand j'avais 13 ans. Quoi. Et j'essayais de faire du Johnny à la place de Johnny, je chantais Kitty Watch avec mon groupe qui s'appelait les Kaïd Boys. C'était les débuts, les premiers débuts. Quoi.
Vous avez eu un groupe qui s'appelait les Squelettes aussi, je crois.
Après, alors c'était deux classes au-dessus, après c'était en troisième, on devenait grand déjà.
Alors au-delà de ce clin d'œil, comme toujours chez Hubert Félix Thiéphaine, on trouve beaucoup de références littéraires et picturales. C'est une œuvre à 360 degrés qu'il écrit. Thiéphaine adore ça, des textes palimpsestes, à sens multiple et cachés, comme souvent en peinture. Il est aussi question de la mort, bien sûr, comme dans Le Poignant et Crépusculaire, Combien de jours encore ?
Combien de jours encore à contempler l'automne, à surveiller l'orage dans le cri des guetteurs, à pleurer dans les bras de ceux qui abandonnent, qui s'envolent à jamais vers un nouvel ailleurs. Combien de jours encore?
Alors on trouve aussi des lieux abandonnés sur Reykjavik et puis évidemment le thème de la folie, un sport de l'extrême qu'il adore pratiquer.
Alors en parlant de thématiques chères à Hubert Félix Thiéphaine, est-ce qu'il est aussi question de la religion dans ce disque?
Oh bah oui, on retrouve son besoin de taper dans la fourmilière avec Bab al-Zabab, un des nombreux noms de Belzébuth, une prière adressée au diable donc et composée par le rocker Nosfell.
J'entends des voix étranges débordant d'indécence et je vois des passants pliés sous l'arrogance, des cerveaux plastifiés sur des statues toltèques et des anges enchaînés, violés par des évêques. Oh Seigneur fou des bacchanales, ne me délivrez pas du mal. Seigneur fou des bacchanales, ne me délivrez pas. Seigneur fou des bacchanales, ne me délivrez pas du mal. Seigneur fou des bacchanales, ne me délivrez pas.
Bon, c'est totalement dans l'esprit de ce que Thiéphaine a toujours fait, en fait.
Oui, et m'expliquait qu'il aime vraiment bien s'amuser des idées toutes faites et des formules creuses, avec humour, bien sûr. Et puis, cet album dessine aussi une géographie du vide, dont les explorateurs revendiquent leur droit à la différence.
Géographie du vide, le nouvel album d'Hubert Félix Thiéphaine, qui sera en tournée acoustique Unplugged dans toute la France à partir de janvier prochain, puis en tournée électrique Replugged en 2023. Merci Marjorie. Demain dans VMDN, tout à fait autre chose, le grand retour de Goldorak, en BD cette fois avec Xavier Dorizon et Denis Bajram. L'album est sorti déjà chez Cana et vous m'en direz des nouvelles.
Au passage, il te dévisage, t'es repéré. Si tu veux, tu peux entrer dans leur jeu. Mais ça suppose prendre la pause avec eux. Si tu veux, tu peux entrer dans leur jeu, mais ça suppose d'être quand même un peu comme eux. Chercher l'amour sous une pluie d'été, sur la lande, leur sarabande t'invite.
RFI.